forme que ça. On va prendre un texte dans la Bible. Est-ce que vous avez vos Bibles ? On va lire dans la première lettre de Pierre, l'apôtre Pierre, le compagnon de Jésus, le compagnon d'œuvre, 1 Pierre 1. Première lettre de Pierre, chapitre 1. On peut commencer au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Alors, j'ai lu ce texte assez lentement et je l'ai lu dans une traduction qui n'est peut-être pas la même traduction que la vôtre. C'est une traduction un petit peu plus adaptée, la mienne, parce que c'est un texte qui a plein de mots, et plein de mots compliqués, et puis c'est un peu... voilà, il n'est pas simple à lire, ce texte, et à comprendre. Pierre met en quelques phrases énormément de choses riches. C'est pour ça que je vous ai lu une traduction un peu plus français courant, disons. Ce qui a déclenché... ma réflexion sur le thème et ce message de ce matin, c'est en fait une phrase, un morceau de phrase, au verset 6, au milieu du verset 6, il est écrit « Puisqu'il le faut ». Puisqu'il le faut. Et ça a été un choc pour moi de voir ces mots-là. Alors, il faut les remettre dans le contexte. De quoi Pierre parle-t-il ? On peut relire le verset 6. Hein. Ce qui fait votre joie, c'est Dieu, le salut, etc. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Pierre décrit des choses extraordinaires qu'il faut prendre le temps de lire et relire pour bien comprendre tellement c'est beau, grand et tout. Et il dit ça, ça fait votre joie, c'est extraordinaire. Puis il dit, mais... puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. C'est étonnant ça, non ? Puisqu'il le faut. Moi, j'aurais été l'apôtre Pierre, j'aurais pas écrit ça. L'évangile, c'est grand, c'est beau, c'est le salut, c'est la joie, c'est la fête, c'est la liberté, tout ce qu'on a célébré ce matin. Le feu ! Et puis là, il parle d'un autre feu. Du feu de l'épreuve. Et Pierre va dire, il le faut. L'épreuve. C'est étonnant, non, pour la vie du chrétien. C'est pas ce qu'on a l'habitude de partager entre nous le dimanche matin quand on parle de l'évangile. Là, l'apôtre Pierre nous prend presque à rebrousse-poil et puis il le dit, mais il le faut. Moi, j'aurais tendance à dire, non, Seigneur, il faut pas. J'ai pas envie. Et Pierre, de la part du Seigneur, nous dit, ben, il le faut. Et donc, c'est un petit peu là-dessus que je voulais réfléchir ce matin avec vous et partager. par rapport à nos vies, par rapport au quotidien. Puisqu'il le faut, est-ce que les épreuves sont nécessaires ? Question que je vous pose. Est-ce que les épreuves sont nécessaires ? Alors, est-ce que les épreuves sont nécessaires ? Il faut d'autres réponses là. Est-ce que les épreuves sont nécessaires ? Ah, on est partagé, hein ? Si je continue, on va même se battre là-dessus, à coups de versets bibliques et à coups de... Est-ce que les épreuves sont nécessaires ? Ben Pierre, là, il dit, il le faut. Ça veut dire qu'on ne les demande pas. Alors, déjà, le chrétien n'est pas masochiste. Hein ? Il ne dit pas plus, Seigneur, encore je veux souffrir un peu plus. Parce que l'épreuve, on le lit souvent à la souffrance, un peu. Forcément. À la difficulté, à l'opposition, c'est pas drôle. Pierre, et c'est là où ça m'a interpellé ce verset. Pierre dit, puisqu'il le faut, il faut que vous soyez attristés par des épreuves. Mais non, Seigneur, c'est quoi cette histoire ? C'est pas l'évangile qu'on m'a prêché. Moi, on m'a prêché l'évangile du salut, de la joie, de la richesse, de la santé, de tout. Ça roule, quoi. Viens Jésus et tu vas voir ce que tu vas voir. Et puis là, boum, puisqu'il le faut. Donc les épreuves sont-elles nécessaires ? Ce verset a l'air de dire oui, il le faut. Est-ce que ça veut dire que les épreuves entrent dans le champ de la volonté de Dieu ? Alors, il y en a un qui dit non, il y en a un qui dit oui. Est-ce que les épreuves entrent dans le champ de la volonté de Dieu ? C'est compliqué comme réponse, hein ? On a plutôt tendance à dire non, mais ça nous arrange de dire non, mais que dit la Bible ? Que dit l'Écriture ? Que nous montre l'Écriture ? Pierre ne dit pas vraiment que l'épreuve entre dans le champ de la volonté de Dieu. Pierre ne dit pas ça. Mais il reconnaît la réalité. C'est que c'est inévitable. Et j'aime cette Bible qui est pratique, qui est pragmatique, qui ne vit pas dans des rêves, qui vit dans la réalité. Pierre ne dit pas « Dieu veut que vous ayez des épreuves », mais il dit « Bon, ben, puisqu'il le faut, il reconnaît que c'est inévitable, que ça fait partie de la vie ici-bas telle qu'elle est encore aujourd'hui, en attendant le retour glorieux du Messie. » Non, la vie chrétienne n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Non ? Et c'est pas négatif de dire ça. C'est la vie et c'est ça fait et voilà. On peut avoir parfois l'impression que si on ne présente pas un évangile qui lave plus blanc que le blanc que le blanc, hein, que la lessive untel ou que la religion untel, que on ne va pas attirer des adeptes à l'évangile. Non. L'évangile, c'est la réalité de la vie. Et on pénètre avec l'évangile à fond dans la réalité de la vie, dans les choses extraordinaires. Et puis, puisqu'il le faut, pour un peu de temps, dans les choses moins extraordinaires. C'est ce que Pierre nous décrit là un petit peu. Pierre va plus loin en disant effectivement, quelqu'un l'a dit, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Martine ou tout à l'heure quand je posais la question, Dieu va utiliser l'épreuve. Dieu va utiliser l'épreuve. Ça, c'est vrai. Alors, avant de continuer à parler de l'épreuve, je voudrais qu'on définisse un petit peu ce que c'est que l'épreuve. C'est quoi l'épreuve ? Dans la langue française, le mot épreuve, il a ce qu'on appelle un champ lexical assez large. On peut parler d'épreuve quand on perd quelqu'un de proche. On peut parler d'épreuve quand on passe le baccalauréat, on passe les épreuves du baccalauréat. On peut parler d'épreuve quand on passe son permis. On peut parler d'épreuves quand... D'accord ? Vous voyez un petit peu, il peut y avoir toutes sortes de choses. dans la Bible, le champ lexical, c'est ce qu'on appelle le champ lexical, hein, du mot épreuve, il est encore plus large. Encore plus large. Par exemple, le mot épreuve, en français, on a deux mots pour décrire deux réalités qui nous semblent différentes. Épreuve et tentation. Épreuve et tentation, c'est différent pour nous. Une épreuve, ça nous tombe dessus. Vous allez dire une tentation aussi, mais c'est pas pareil, quoi. On ne gère pas pareil la tentation et l'épreuve. Dans la Bible, c'est le même mot. Le champ lexical de ce mot épreuve, il est tellement grand qu'il englobe toutes les épreuves, qu'il englobe toutes les tentations. D'ailleurs, quand on traduit, ceux qui traduisent la Bible, traduisent en fonction du contexte, parfois ce mot-là sous forme de mot d'épreuve ou parfois sous forme de tentation. Quand il nous est dit « aucune tentation nous est survenue qui n'ait été humaine », c'est pareil qu'aucune épreuve, nous est, etc. Donc, épreuve et tentation ne sont pas distinctes dans la langue du Nouveau Testament. Si on voulait faire une différence pour nous entre épreuve et tentation, j'aurais tendance à dire que la tentation, c'est une épreuve qui nous éprouve par des choses agréables. D'accord ? On est éprouvé, mais par quelque chose qui va peut-être nous faire du bien, du plaisir ou par quelque chose d'agréable. Hein ? Ève a vu que l'arbre, que l'arbre était beau et que le fruit était bon. C'était une épreuve. C'était une tentation. D'accord ? Alors que ce qu'on appelle en général l'épreuve, c'est quelque chose qui nous éprouve, mais par quelque chose de désagréable. D'accord ? En fait, la réalité, c'est que l'épreuve, toute épreuve, est une tentation. La tentation de laisser tomber, la tentation de baisser les bras, la tentation de tout envoyer balader. Les amis de Job lui disaient « Maudit Dieu et meurs !» C'était une tentation pour Job, hein, dans son épreuve. Et en fait, la tentation, donc j'ai dit que toute épreuve est une tentation, ou comporte la tentation, c'est pour ça que la Bible ne différencie pas les deux. Et toute tentation est aussi une épreuve. Quand on est tenté par quelque chose qui n'est pas légitime, c'est une épreuve à surmonter. On comprend mieux pourquoi la Bible ne différencie pas ces deux mots-là. Alors l'épreuve, elle vient d'où ? L'épreuve peut venir des hommes, elle peut venir du diable, elle peut venir des circonstances, et d'une certaine façon, on le verra, elle peut venir de Dieu. L'épreuve définie comme je l'ai définie tout à l'heure. D'une certaine façon, je dis, parce que par exemple pour Abraham, qui est-ce qui a demandé à Abraham de sacrifier son fils ? De prendre un fagot, de prendre un couteau, de prendre une torche, de monter sur la montagne et de sacrifier son fils. C'est le diable ? C'est Dieu ? C'était pas une épreuve, ça ? C'était une, j'allais dire sacrée, oui, dans tous les sens du terme, épreuve. Et donc, dans l'épreuve, dans la tentation, il y a la notion de test. Et j'ai pris l'exemple d'Abraham, on peut prendre l'exemple de Moïse. Pour interpeller Moïse et parler à Moïse, alors que Moïse est en train de garder des brebis dans la montagne, il voit un buisson qui brûle sans se consumer. Ça interpelle Moïse qui se détourne. Et la Bible nous dit, Dieu a vu que Moïse se détournait pour voir ce qui se passait. Dieu aurait pu parler directement à Moïse. Non, il a fait une épreuve, il a fait un test. Si Moïse s'était dit, n'importe quoi, c'est un buisson, il fait chaud, il y a eu un bout de verre, une loupe, je ne sais pas quoi. Enfin. Non, Moïse a fait un détour et Dieu a vu que Moïse faisait un détour. Dieu regarde comment on réagit dans la vie. Dieu regarde comment on réagit dans la vie, aux épreuves, aux tests, aux tentations. Et Dieu répond à ça. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, l'épreuve au sens biblique du terme peut venir de toutes sortes de sources. Elle peut venir de nous-mêmes. Quand on se met nous-mêmes, comme j'ai dit tout à l'heure le verset, hein, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et la convoitise, une fois qu'elle enfante, etc. Donc on est très grand pour se mettre nous-mêmes dans le pétrin. Merci. Cherchez le mot. Alors, comment on peut définir une épreuve, finalement? Et ça a son utilité de se poser cette question. Moi, j'aurais envie de vous proposer ma définition de l'épreuve, qui, à mon avis, correspond à la pensée biblique. Alors, attendez-vous à une grande révélation. Tout ce qui m'éprouve est une épreuve. Alors, vous rigolez, vous avez raison. Ça semble le béaba et ça semble la palisse, hein ? Mais ça a du sens. Tout ce qui m'éprouve, c'est une épreuve. Est-ce que quand on rigole de moi parce que je suis chrétien, c'est une épreuve ? Oui. Est-ce que quand je tombe malade, ça m'éprouve ? Oui. Est-ce que quand, je ne sais pas, plein d'autres choses, hein, j'ai un revers financier, un problème au travail, est-ce que ça m'éprouve ? Oui. Eh bien, tout ce qui m'éprouve est une épreuve. Et c'est donc une façon pour Dieu d'intervenir aussi dans ma vie pour multiples raisons. Pour me tester, pour me changer, pour me faire changer de voie, pour... on va le voir un peu plus, on va prendre d'autres exemples. Donc vous voyez que c'est important de raisonner comme ça. Tout ce qui m'éprouve, c'est une épreuve. Oh, ça me vient. Ça vient de moi, ça vient de quiconque, peu importe. La Bible ne cherche pas forcément à me dire d'où ça vient, mais en tout cas, ça s'oppose à moi, ça me fait du mal. Ou c'est difficile, parce que c'est pas forcément une épreuve ne fait pas forcément du mal. Quand on passe le bac, on souffre, mais quand même, tout est relatif. Peut-être certains plus que d'autres. Ou le saut en hauteur, ou je ne sais pas quoi. Donc tout ce qui m'éprouve est une épreuve. Les épreuves, les difficultés, les tentations, les afflictions, les oppositions, les persécutions, les obstacles, la souffrance, la maladie, la déception, les échecs, les conflits, le péché, les tests divins. Voilà, tout ce qui ne tourne pas comme j'aimerais, c'est une épreuve. Et selon le texte, selon les textes bibliques et selon ce qu'on a lu notamment, le but de l'épreuve n'est pas de me décourager. On a eu ce matin plusieurs paroles dans cette direction-là, d'encouragement. Le but de l'épreuve n'est pas de me décourager, c'est pas de me faire tomber, c'est pas de m'anéantir, quelle que soit l'épreuve. Son but n'est pas de me laisser par terre, inanimé, pas du tout. Le but de l'épreuve, c'est quoi ? Ça va être de me rendre endurant, persévérant, confiant en Dieu malgré tout, de me faire grandir dans la foi, de me rendre, les textes bibliques disent ça, de me rendre de plus en plus conforme à l'image de Christ, de me rendre de plus en plus conforme à l'image de Christ. Le but, en fait, c'est qu'au sortir de l'épreuve, je sois encore plus précieux. On va détailler un petit peu ça rapidement. Parce que la mauvaise nouvelle, c'est ce que je disais au début. L'apôtre Pierre va dire, il faut. Mince alors, il faut. Voilà, c'est la réalité. Mais la bonne nouvelle, c'est que juste après, il dit, pour un peu de temps. Ça, j'aime bien. Pierre est réaliste, il dit, il faut. Bienvenue au club, les amis. Vous aurez des épreuves parce qu'il le faut. Mais bienvenue au club aussi, c'est que c'est pour un peu de temps. Alors un peu de temps, ça veut dire quoi ? Alors, le passage sur terre, donc là, ce n'est pas un peu de temps, c'est toute ma vie. Et c'est vrai qu'il y a des épreuves qui durent toute notre vie. Bien sûr, Christine, elle, jusqu'à aujourd'hui, elle marche avec une épreuve qui dure toute sa vie. Mais pour un peu de temps, ça peut être plus court, hein? Et heureusement que toutes les épreuves ne sont pas si longues et qu'on a tous des épreuves qui durent peu de temps et auxquelles on est malgré tout confronté. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une issue. C'est qu'on n'est pas seul. C'est qu'on n'est pas laissé par terre comme ça. Oui, il y a un arrêt à l'épreuve. Pierre, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, va reprendre une image qui est bien connue dans les Écritures. L'image du creuset. On peut le relire si vous l'avez oublié. Au verset 7. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable, mais que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. Pierre utilise là l'image de l'or, du minerai, qui est très précieux, mais qu'on va quand même soumettre à l'épreuve du feu dans un creuset. Vous savez ce que c'est quand on veut purifier un métal, en fait, on le fait fondre. Et quand on le fait fondre, il y a toutes les scories, toutes les impuretés qui sortent ou qui sont grillées, notamment dans le cadre de l'or ou de l'argent, et qui vont permettre de purifier ça. Que l'or, qui est déjà un métal précieux, soit encore plus précieux. Pour rendre de l'or liquide, il faut chauffer à 1060 degrés. Faut y aller, hein? Pour l'argent, c'est 960. Mais l'image est belle, cette image que prend Pierre. Il dit, mais vous êtes des gens précieux. Et l'épreuve, elle va venir. Ça fait partie de la vie ici-bas tant que Jésus n'est pas revenu. Mais la façon dont vous allez vivre l'épreuve, remporter l'épreuve, sortir de l'épreuve, vous allez être encore plus précieux. On a l'habitude et on a raison de dire que ce qui nous rend précieux, c'est le fait d'avoir d'abord été créé par Dieu et c'est le fait d'avoir été racheté par Jésus. Oui, c'est vrai que toute notre valeur est là. Mais c'est comme si Jésus, comme si Dieu, là, nous disait qu'il rajoute de la valeur à la valeur. Alors sûrement de plusieurs façons, mais notamment par notre passage au travers de l'épreuve. Le psaume 26, si vous avez encore votre Bible sous les yeux, vous pouvez ouvrir au psaume 26. Non, d'abord Proverbe 17, pardon. Proverbe 17. Proverbe 17, verset 3. Proverbe 17, verset 3. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Le creuset est pour l'argent, donc Pierre reprend cette image bien connue dans l'Ancienne Alliance. Le creuset est pour l'argent, le fourneau est pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Donc, quand nos cœurs sont éprouvés, quand nos vies sont éprouvées, passent par l'épreuve, Dieu est là. Dieu est avec nous. On n'est pas seul dans l'épreuve. Dieu est avec nous. C'est lui qui participe à toute cette œuvre. Il est là. Psaume 26, comme je disais. Allons au psaume 26. Examine, verset 2. Examine-moi, Éternel, mets-moi à l'épreuve. Alors là, le psalmiste, il va loin. Hein, lui. On disait tout à l'heure, nous, on dit non, 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 non. Lui, il dit si, examine-moi, Éternel. C'est comme s'il venait en face du grill, là, et qu'il disait, ben vas-y, passe-moi au grill, Seigneur. Mets-moi à l'épreuve, purifie au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les hypocrites, je déteste l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants, je lave mes mains, etc., etc. Après, il fait toute une description de son intégrité. Je ne m'assis pas avec les méchants, je ne participe pas à leurs mauvaises actions. Donc il parle de toute son intégrité, et quelque part il dit, mais avec mon intégrité, je peux me tenir devant Dieu, mais en même temps il lui dit, purifie-moi au creuset. Purifie-moi au creuset. Donc on retrouve bien dans ces textes que l'épreuve, d'où qu'elle vienne, Dieu va l'utiliser. Et l'utiliser pas pour notre mal, mais pour notre bien, pour quelque chose de plus. Pour quelque chose qui, quand on est au sein de l'épreuve, peut paraître totalement incompréhensible, parce que beaucoup d'épreuves n'ont pas de sens, franchement. Beaucoup d'épreuves n'ont pas de sens, ou de sens premier, de sens évident. Et elles n'ont surtout pas de sens quand on est en plein milieu. Je voudrais vous rappeler les paroles incroyables de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pour Jésus, quelle épreuve, c'est la croix. Séparé de son Père, ce qui ne s'était jamais produit. Mon Dieu, pourquoi ? Ça n'a pas de sens. Jésus, au moment où il vit cette épreuve incroyable, il y a cet éclair d'inconscience, presque, j'allais dire, de Jésus. Je ne sais pas si je peux parler comme ça, mais quand même. Qui dit, mais mon Dieu, pourquoi ? Alors, on sait qu'il cite le psaume 22. Mais il le dit en réalité, c'est ce qu'il ressent. Pourquoi ? Je suis là, moi le Fils de Dieu, moi le pur, moi le saint, moi le... Tout. Je suis tout. Et je suis là en train de mourir de façon ignominieuse. Ça n'a pas de sens. Et Jésus a vécu ce que tu peux vivre dans l'épreuve quand tu dis, mais pourquoi, mais comment, mais ça ne veut rien dire, mais c'est n'importe... Voilà. Quand on est là dans l'épreuve et que ça n'a pas de sens, Jésus a vécu ça aussi. Jésus a vécu ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans l'épreuve ? Plein de choses. Je pourrais faire aussi, on pourrait faire tout un message uniquement là-dessus, mais je vais passer rapidement. En tout cas, dans l'épreuve, il se passe une transformation. Il y a comme un combat en nous. Il y a une lutte. Il y a une bagarre. L'épreuve nous appelle à nous dépasser. L'épreuve, parfois, nous appelle à nous laisser faire. À nous laisser faire. Pierre, dans le texte qu'on avait lu au tout début, va dire, vous êtes pleinement dans la joie, quoique pour le moment, il faut que vous soyez attristé. C'est rigolo quand même. Il dit, vous êtes dans la joie et vous êtes dans la tristesse. Et dans l'épreuve, on vit souvent ça, cette ambivalence des sentiments. On est à la fois heureux et malheureux, à la fois joyeux, à la fois triste. À la fois on y croit, puis à la fois on n'en peut plus, on laisse tomber. À la fois, vous êtes d'accord avec ça ? Pierre a bien ressenti ça. Et moi, ça me fait du bien de savoir que la Bible, elle me parle de ce que je vis. Et que Dieu connaît ce que je vis, et que Dieu le sait. Et que non seulement il le connaît, il le sait, mais qu'en plus Jésus est passé par là. Et qu'il peut compatir. Et qu'il peut être avec moi. Quand on creuse l'écriture sur le sujet de la... Juste avant de ça, avant de dire ça, je voulais dire que la valeur de notre foi augmente dans l'épreuve. La valeur de notre foi augmente dans l'épreuve. Job n'est pas ressorti le même de son épreuve. Sa façon de l'exprimer, c'est de dire « Maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu parler de toi. Ça, c'était ma foi avant l'épreuve, va dire Job. Mon oreille avait entendu parler de toi. C'est des choses, oui, j'y crois, oui, je le vis, oui, c'est bien, oui. Je passe par l'épreuve de Job. » Et là, je dis, mais maintenant, ce n'est plus mon oreille qui a eu des oui-dire. Maintenant, mon œil t'a vu. Dans l'épreuve, on est amené à une rencontre plus personnelle avec Dieu. C'est comme si Dieu, parfois, allait creuser au fin fond de nous par l'épreuve pour voir de quoi on est fait. Il y a parfois des pièces dans notre maison, j'allais dire notre maison intérieure, parfois des pièces où on aime bien verrouiller. Hein. On dit Seigneur, oui, le salon, oui, la salle de bain, oui, le je sais pas quoi, mais cette pièce-là, non. Cet endroit-là, t'as pas le droit. Ben parfois, par l'épreuve, le Seigneur ouvre des portes dans nos vies pour aller dire, là aussi, je veux y aller. Là aussi, je veux y aller. Et donc, je disais, quand on creuse l'écriture sur le sujet de l'épreuve, c'est assez drôle parce qu'on peut à la fois se sentir victime et coupable, victime et responsable. Le mot coupable est un peu fort dans le sens où il parle de culpabilité, mais c'est pas ce que je veux dire. Je vais éclairer ce que je veux dire par un texte dans l'Épître aux Hébreux. On va voir que dans une même chose, dans un même texte, on peut être à la fois victime et responsable. Et que ce qui intéresse la Bible, c'est pas si l'épreuve qui m'atteint, c'est de ma faute ou pas. Si j'en suis une victime ou si c'est à cause de moi. C'est pas ça qui intéresse la Bible. Ce qui intéresse la Bible, c'est ce que je vis dans l'épreuve. C'est comment j'en sors. Et ça, c'est très important. Nous, on a tendance à dire, bah, il a bien mérité, quoi. Hein? Quand quelqu'un vit quelque chose, surtout si c'est notre ennemi, hein, qui vit une épreuve, ben quelque part, ça nous fait plaisir, il l'a bien mérité. La Bible n'est pas dans cette dynamique-là, du tout. Et elle n'est pas non plus dans la dynamique de la victimisation. Oh, le pauvre, tout ce qu'il a comme épreuve, regarde, lui, sa vie, il y a des gens vraiment. Hein, j'ai une patiente qui me dit souvent, moi, j'ai été greffée sur un concombre. Et effectivement, si vous regardez sa vie, je veux dire, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable tout ce qui lui arrive et tout. Il n'y a jamais rien qui va. Jamais rien qui va. Mais la Bible ne nous amène pas dans la victimisation non plus. Hein. Oh, moi, le pauvre, vous savez, le petit Caliméro. Hein. Personne ne m'aime. C'est pas ça qui intéresse. Que tu sois responsable de ce qui t'arrive ou que ça te tombe dessus, Dieu t'aime, Dieu va prendre soin de la même façon. De la même façon. On lit donc dans Hébreux 12. Et on va finir sur ces exemples, cet exemple de Jésus, puis sur un mot d'encouragement dans les Éphésiens. Hébreux 12. Verset 3. Pensez en effet à celui, c'est-à-dire Jésus, qui a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Là aussi, je lis dans une traduction français courant. Hein. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime, il punit tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes, des bâtards, et non des fils. Ça, c'est le mot exact. Hein. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté, etc., etc. On peut continuer, mais je voudrais vous interpeller sur ce qu'on vient de lire. Le texte commence en disant, verset 3, pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs. Donc là, le texte nous donne Jésus en exemple, et nous donne en exemple comment Jésus a résisté à l'opposition des pécheurs. Hein, on se souvient de sa vie, de tous ceux qui l'ont, voilà, essayé de le tuer, etc., contredit, blasphémé contre lui, enfin tout ce qu'il a vécu. Donc, et ce texte nous donne comme exemple la résistance à l'épreuve de la part des pécheurs. Donc ça vient bien de l'extérieur. Et le texte nous prend cet exemple-là pour nous dire, vous aussi, ne vous laissez pas abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre les pécheurs? Non, il ne dit pas ça, mais contre le péché. Donc c'est le combat intérieur, c'est le combat face à la tentation, face au péché. Et puis il va plus loin. Donc on voit Jésus qui lutte contre l'épreuve extérieure, on voit nous qui luttons pas jusqu'au sang contre le combat, dans le combat intérieur. Et puis il persévère avec quelque chose, on se dit mais qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire ? Vous avez oublié l'encouragement qu'il vous a adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur. Et vous voyez, dans le même texte très court, on a Jésus qui lutte contre les pécheurs, nous qui luttons contre le péché, et dans tout ça, Dieu qui nous corrige. Vous allez dire, mais alors attends, l'opposition des pécheurs vis-à-vis de Jésus, c'est Dieu qui corrigeait Jésus, le péché. Vous voyez combien c'est un peu complexe comme texte ? Parce que c'est global. Parce que l'épreuve, c'est ça. Que tu sois en lutte face à l'extérieur, que tu sois en lutte à l'intérieur, que ce soit Dieu qui permette cela pour te tester, pour te corriger, pour... Peu importe. Le but, c'est que Dieu travaille dans nos vies. Le but, c'est que quand je sors de l'épreuve, je vais être plus fort et que ma foi va être plus forte et que je vais être plus précieux. Ce texte mettait sur un pied d'égalité l'opposition, la persécution, mes fautes, mes erreurs, mes faiblesses, la correction du Seigneur ou les tests que Dieu permet, peu importe la cause. Et je crois qu'en tant que chrétien, on ne doit pas toujours se tarabuster, mais pourquoi ça me tombe dessus ? Ou pourquoi moi je vis toujours ça ? Ou pourquoi moi je retombe toujours là ? Ou pourquoi ? Peu importe, la Bible met tout ça sous la même chose, l'épreuve. Et dans l'épreuve, Dieu est avec toi. Dans l'épreuve, même si elle n'a aucun sens, Jésus va t'aider. Alors on finit juste par un texte, Éphésiens 6. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, 10, hein. Au verset 10. Revêtez toutes les armes de Dieu, verset 11, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est le combat spirituel, une des formes de l'épreuve. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Même dans la vie chrétienne, il y a des mauvais jours. Paul va le dire. Alors prenez les armes de Dieu pour pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Voilà ce qui va nous défendre dans l'épreuve. La vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. C'est juste. Je suis juste. Je suis comme David le disait tout à l'heure, le psalmiste. D'accord ? Ça, la justice, c'est une... Donc, je ne laisse pas les mensonges du diable venir me dire « Mais c'est ta faute, c'est à cause de toi. C'est après tout, tu es maudit ou Dieu t'aime plus ou Dieu t'a abandonné ou je ne sais pas quoi. » Tous les mensonges. Non, la vérité pour ceinture, la cuirasse, la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Parce que si Dieu profite de l'épreuve, j'allais dire, pour nous faire du bien, le diable, lui, essaie de profiter de l'épreuve pour nous faire du mal, pour nous envoyer des traits enflammés, encore du feu dont on a parlé ce matin. Et quelle est la meilleure façon d'éteindre les traits enflammés du malin, toutes ces mauvaises pensées, tout ça ? Le bouclier de la foi. Quoi qu'il arrive, je continuerai. Seigneur, il fait beau aujourd'hui, je te fais confiance. Il pleut aujourd'hui, je te fais confiance. Tout va bien, je te fais confiance. Tout va mal, j'apprends à te faire confiance. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Je suis sauvé et rien ne me ravira de sa main. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quand Jésus s'est défendu, il s'est défendu avec la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il faut prier. Dans l'épreuve, ceci dit, c'est presque Paul n'avait pas besoin de le dire là. Parce que dans l'épreuve, on prie. Quand tout va bien, parfois on ne prie pas. Mais dans l'épreuve, souvent on prie. Priez. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Voilà, je vais m'arrêter là. On va peut-être prendre comme on fait d'habitude, on va clôturer le culte, mais s'il y a des gens qui ont besoin de la prière, si vous êtes venu pour un sujet de prière particulier, un problème de santé ou autre, ou si par rapport à ce message, vous êtes dans ce temps d'épreuve et que vous voulez continuer, persévérer, prendre les armes de Dieu, ben, approchez-vous pendant qu'on clôture le culte. Vous pouvez venir ici, on priera pour vous, des responsables de l'Église prieront pour vous. Amen.